Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel. La radio, la radio, la
radio. Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour à tous et bienvenue dans Cinérama, donc sur Divergence FM 93.9. Nous sommes le mercredi 6 octobre. Vous l'aurez remarqué, le générique de Cinérama a changé de coiffure. Aujourd'hui, nous avons voulu rendre hommage au comédien Tony Curtis, décédé mercredi dernier à 85 ans. Tony Curtis était un véritable acteur de légende qui a participé à des grands classiques du cinéma américain comme Winchester 73 d'Anthony Mann, Les Vikings de Richard Fleischer, Certains l'aiment chaud de Billy Wilder ou encore Spartacus de Stanley Kubrick. Mais il fut surtout connu pour son rôle de Danny Wilde dans la série Amicalement Vôtre aux côtés de Roger Moore dont nous avons utilisé le célèbre générique. Bonjour Vincent.
Eh bien bonjour Martin.
Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous passez un excellent mercredi. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Vincent?
Eh bien, figure-toi que j'avais ramené une interview de Mariana Otero. Alors, Mariana Otero, c'est toujours d'ailleurs une réalisatrice de documentaires. Elle a sorti ce mercredi un documentaire qui s'appelle Entre nos mains, qui raconte comment des ouvrières devant une cessation de paiement de leur entreprise ont décidé de se former en SCOP, qui est une forme juridique qui permet finalement aux salariés qui investissent dans l'entreprise d'avoir autant de poids les uns que les autres. Alors, il se trouve que, évidemment, j'avais préparé un petit montage de 10 minutes, mais que je l'ai malencontreusement oublié, puisque, enfin voilà, c'est une journée un peu particulière pour moi. Et c'est d'autant plus particulier que je me retrouve encore dans la peau d'un technicien. Et donc, c'est pour ça que je vais te laisser parler. Et l'interview de Mariana Otero, on la retrouvera la semaine prochaine, mais je pourrais vous dire quelques mots, quand même, sur ce documentaire.
Voilà, quant à moi, je vais vous parler un petit peu de Wall Street, L'argent ne dort jamais. Donc, nouveau film d'Oliver Stone qui est sorti mercredi dernier. Donc, avec ton intervention sur le film de Mariana Otero, ça va faire une émission un peu consacrée à la finance, à l'industrie, ce qui colle bien sûr avec l'actualité, avec le jugement de Jérôme Kerviel qui a été condamné à payer 14 trillions de milliards de dollars à la Banque Populaire. Donc voilà, aujourd'hui dans Cinérama, nous allons aborder une question qui passionne tout le monde, de la sage-femme au croque-mort et du petit rémouleur au plus puissant chef d'État. J'ai nommé le pognon. Et pour commencer, je vous propose d'écouter un petit titre du groupe Java qui s'appelle le bien nommé Pépette.
J'étais encore un enfant quand on s'est rencontré. J'ai mis mon adolescence à comprendre combien je t'aimais. Le jour où je t'ai roulé ma première galoche, tu m'as tapé dans l'œil avant que j'étais dans la poche. Depuis ma vie se résume à une course poursuite. Chaque fois que je tente de t'effleurer, dis-moi pourquoi tu prends la fuite. Avec toi ça va, ça vient, sans toi je suis un vaurien. En avoir pour son toit j'aimerais tant. D'ailleurs le temps c'est du toit. Du chagrin je n'ai gros sur la patate. Je croque de toi sauf quand tu craques. J'ai les bourses qui se rétractent. Ta courbe croissante m'enchante. Mais ta chute de rein me donne des vertiges et des crampes. T'es la personne la plus ouverte, tu connais pas de frontières. Tu parles toutes les langues et sais briser les barrières. Snob, la pauvreté te fait horreur. Je t'offrirai tous les parfums, toi qui n'as pas d'odeur. Tu me fais pas de bonheur, procure du plaisir. Et plus je te désire et plus tu me fais courir. Je te tire mon chapeau et tu m'en fais baver les rondes pièces. Je t'aime autant que je te déteste. T'es fraîche et bien roulée, pépette. Tout le monde te court après et j'arrive toujours le dernier. Tu me fais tourner la tête. Arrête de jouer à cache-cache ou je finirai par te coffrer. reste fraîche et bien roulée, pépette. Tout le monde te court après et j'arrive toujours le dernier. Je fais tourner la tête. Arrête de jouer à cache-cache ou je finirai par te coffrer. Arrête, je suis franc, j'en veux pas qu'à ton écu, poupée. Quand apprendras-tu à te poser? Ne me quitte pas, il est paraît-il de placement fertile, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Je ferai un domaine où tu seras reine, où tu seras loi. Et même si ce domaine existe déjà, imprévisible, soudain visible, d'autres t'ont pris pour cible. Reviens dans mes bras, pour toi je serai crédible. Au bal je t'ai invité à ma table et tu m'as snobé pour aller danser avec un notable. Pendant que je me faisais biaiser, d'autres avaient déjà appris à savoir léser. Au début j'étais rongé par la jalousie, et puis j'ai bien vite compris que tu ne ferais jamais le bonheur d'autrui. Toutes ces formes font rêver mais dans le fond y'a rien. Un palpable liquide tu fonds dans leurs mains. À peine ils tombent tu lormes déjà sur les voisins. Tu les rends possessifs, jaloux, radins et méchants. T'es parti à la conquête du monde entier, et le monde entier a succombé à tes charmes de papier. Aujourd'hui le monde entier est à tes pieds, mais t'es plus que jamais malheureuse comme les blés. T'étais fraîche et bien roulée, pépette, maintenant t'es fade et fardée. Tu donnes le bras à des riches, pépette, mais t'es malheureuse comme les blés. T'étais fraîche et bien roulée, pépette, maintenant t'es fade et fardée. Donne le bras à des riches, pépette, mais t'es malheureuse comme les blés. T'étais fraîche et bien roulée, pépette, maintenant t'es fade et fardée. Tu donnes le bras à des riches, pépette, mais t'es...
Alors rassurez-vous, nous n'allons pas profiter de ces quelques minutes d'antenne pour faire le point sur la crise financière, ni pour vous expliquer enfin de façon simple et précise ce que sont les hedge funds, les OPA, l'effet de levier inversé ou la titrisation synthétique. Non, non, si nous allons parler d'argent aujourd'hui, c'est pour mieux vous déconseiller de dépenser le vôtre en allant voir le nouveau film d'Oliver Stone. Alors mercredi dernier est sorti en salle Wall Street, L'argent ne dort jamais, 22e long métrage d'Oliver Stone et suite de son propre film Wall Street qui date de 1987. Alors dans ce premier opus, le réalisateur de Platoon s'intéressait au monde de la finance tel qu'il était au milieu des années 80, un monde où la dématérialisation et l'informatisation des titres financiers venaient tout juste de donner un grand coup d'accélérateur à la spéculation mondiale. Alors le premier Wall Street nous raconte l'histoire de Bud Fox, un jeune courtier aux dents longues qui rêve de se faire un nom dans l'univers impitoyable des Yuppies. Et pour concrétiser son rêve, pardon, il commence à fricoter avec l'un des grands loups de la finance du moment, Gordon Gekko, un être sans scrupules, maître de la manipulation et de la fraude boursière camouflée.
Je vois qu'il y a 200 000 actions à prendre. Bon alors on est dans le coup ou pas? Il y a intérêt mon pote, sinon je viens de bouffer ton sandwich. Mange, je te rappelle.
Excuse-moi Jeff, écoute non, à 40 ça me plaisait. À 50 c'est une insulte. Leur expert est un crétin qui confond marché financier et marché à bestiaux, t'es d'accord? Attends que ça descende et puis on met des spermatoses dans l'affaire, ok?
D'accord.
Rappelle ce soir.
Monsieur Stevenson appelle de San Francisco.
Il a accepté notre offre.
Sur l'économie.
Quoi?
Oui, il est à Chicago.
Bordel, mais qu'est-ce que Cromwell nous emmerde à faire des conférences, ce con à 60 millions de dettes? Des conférences sur la façon de perdre son fric? Non, mais c'est pas vrai. S'il était croque-mort, plus personne ne mourrait. Ce con a l'encéphalogramme à zéro.
Alors qu'est-ce que je fais?
Ah, ça suffit. Noël est passé, plus de cadeaux. J'en ai marre de ce bricoleur. Achète-moi le paquet. Ce con, tu le ratiboises. Oli, je veux que cet enfoiré pisse le sang par tous les trous.
Il va pisser, Gordy. Ça coule déjà.
Suzanne,
j'écoute.
Apportez-moi l'analyse du bilan de Telder Pepper, vous voulez?
Monsieur Gekko, votre femme.
J'ai déjà racheté à Janssen 250 000 actions à 18 1/4. J'en aurai le double à 18,5 par les caisses mutuelles de Floride. Je crois que ce soir, on aura 1 million de Telder dans le froc.
Ah, le Terminator! Oli le tueur fou!
Et je suis presque sûr que les frères Bizarres vont marcher avec nous. Et je travaille encore les Farmus.
Oui, coupe-leur les baloches et colle-moi tout ça dans le compacteur.
Voilà, coupe-leur les baloches et colle-moi tout ça dans le compacteur. On peut dire que Michael Douglas est assez virulent dans ce rôle de Gordon Gekko. Donc pour devenir lui-même un initié et le rester, Bud Fox est prêt à appliquer les leçons pas vraiment morales de son mentor, au risque de finir par trahir ses convictions, faire du mal à ses proches et se faire repérer par la police. Alors à sa sortie, Wall Street est très bien accueilli par la critique, la performance de Michael Douglas est particulièrement saluée et le comédien remporte 6 récompenses pour son rôle de Gordon Gekko, dont l'Oscar du meilleur acteur. Mais le film est aussi très bien reçu par le public, et de façon étrange, cette histoire qui se veut quand même une critique virulente de la cupidité et des dérives du capitalisme réganien va faire naître de nombreuses vocations. Gordon Gekko et Bud Fox deviennent des exemples à suivre pour une certaine partie de la profession, et le métier de trader séduit toute une nouvelle génération de jeunes fascinés par la vision du rêve américain que propose le film. Pourtant, Oliver Stone ne mâche pas les mots qu'il met dans la bouche de ses personnages.
Non, je ne détruis pas les sociétés. Je libère les sociétés. Certains m'accusent de voracité. Eh bien, la voracité. Mais je dirais plutôt la faim est utile. La faim est bonne. La faim est un moteur. La faim clarifie les problèmes. Elle décèle et s'imprègne de l'essence même, de l'évolution de l'esprit, la fin, sous toutes ses formes. Oui, la fin de la vie, de l'amour, de l'argent, de la connaissance a marqué chaque pas en avant de l'humanité. Et la fin, notez bien mes paroles, va non seulement sauver Teldar Pepper, mais aussi cette belle société si mal gérée que sont les États-Unis. Je vous remercie.
Greed is good, soit en français, la cupidité c'est bien, et dans le doublage VF qu'on vient d'entendre, la fin est bonne. Voilà quelle était la devise de Gordon Gekko en 1985, et le réalisateur prend clairement des distances par rapport à ses personnages et à ce qu'il leur fait dire. En fait, entre 1985, date à laquelle se déroule l'histoire, et 1987, l'économie américaine et mondiale a subi de grands bouleversements, dont une baisse conséquente de la valeur du dollar. C'est donc avec déjà un certain recul sur cet âge d'or de la finance qu'Oliver Stone rédige son scénario et réalise son film. Alors pour l'anecdote, en octobre 87, soit précisément entre le tournage et la sortie en salle du film, une importante crise financière a éclaté. On a même parlé de lundi noir en référence à la crise de 29. Et on peut facilement imaginer que cet événement a fait une jolie publicité gratuite au long métrage. Alors Wall Street dépeint un monde qui brille, un monde qui séduit pour mieux en cibler les défauts et les risques. Et en ça, malgré le fait que le film soit bavard, pas toujours compréhensible et un peu ennuyeux, eh bien Oliver Stone réussit son coup. À la fin du film, la loi rattrape Bud Fox, il est condamné pour avoir commis plusieurs délits d'initié, et pour alléger sa peine et se venger de Gekko, qui a tenté de couler la boîte de son père, il aide la police à confondre son ancien mentor avant de se faire incarcérer. Alors la version 2010 de Wall Street débute sur la sortie de prison de Gordon Gekko, presque 20 ans après les événements du premier opus, donc quelques cracks boursiers plus tard, et en plein éclatement de la bulle internet des années 2000, l'ancien Golden Boy a perdu de sa superbe, et la première impression qu'il nous donne, c'est qu'il va avoir un certain mal à réintégrer le monde de la finance avec son téléphone portable gros comme un grille-pain et ses rides de soixantenaire. Mais rapidement, 7 ans passent et Gekko sort de scène. À partir de là, le scénario se concentre sur un jeune trader, Jacob Moore, campé par un Shia LaBeouf toujours aussi fade. Donc Jacob est l'un de ces petits jeunes qui n'en veulent à mort et qui ne vivent que pour devenir des bons petits Patrick Bateman, le côté serial killer en moins. Il rêve d'argent facile, rapide, et ça semble être plutôt bien parti pour lui jusqu'au jour où son patron se suicide suite à une opération financière qu'il met sur la paille. Jacob décide alors de se venger et pour ce faire, il va aller trouver Gordon Gekko qui se trouve être le père de sa fiancée. Alors entre le premier et le deuxième épisode, le monde a beaucoup changé, Oliver Stone aussi. Ce qui n'a pas changé par contre, c'est que le deuxième opus des aventures de Gordon Gekko est bavard, pas toujours compréhensible et un peu ennuyeux comme son prédécesseur. Mais à ces défauts qu'on peut imputer au genre auquel le film appartient, celui du business thriller, le thriller financier ou thriller d'entreprise, genre La Firme de Sidney Pollack ou L'Idéaliste de Coppola, eh bien l'argent ne dort jamais, accumule d'autres défauts qui en font, à mon avis, un film à éviter. Donc plus encore que le premier Wall Street, ce nouveau film ruisselle d'une naïveté assez effarante dans le traitement de la narration et des péripéties. Un exemple, la petite amie gauchiste du héros déteste son père pour tout ce qu'il représente, mais elle fréquente malgré tout un trader ambitieux et fasciné par l'argent. Voilà, c'est assez éloquent. Et le reste du film est à l'avenant. Et bon, même s'il n'a pas que des défauts, l'ensemble frise parfois l'insupportable, tant ça respire les grosses ficelles hollywoodiennes. Alors la palme revenant à cette ultime séquence qui balaie d'un revers de la main tout ce que le film avait pu soulever comme question éthique liée à la finance. Oliver Stone fait le choix d'une happy end formatée pour conclure son film. Et en ça, non seulement il rentre dans le rang des cinéastes bien comme il faut, qui ne dérangent personne, aussi subversifs ou polémiques que soient les sujets qu'ils abordent, mais en plus il envoie au spectateur un message plutôt dérangeant vu l'époque actuelle. à savoir qu'il est possible de taper sur le monde de la finance pendant 2 heures et de le présenter comme un monde sans pitié, où les faibles sont écrasés par les plus forts, mais qu'il ne faut pas oublier quand même que ce secteur d'activité permet à certains de toucher du doigt le rêve américain. Voilà, il suffit d'être assez malin pour s'en sortir et on peut passer à travers les gouttes. Donc faire aujourd'hui un film sur Wall Street et éluder ou survoler tous les effets néfastes de la crise économique que traverse le monde depuis des années, c'est à mon avis une grosse connerie. Alors bien sûr, Oliver Stone nous montre l'autre bout de la chaîne économique à travers le personnage incarné par Suzanne Sarandon, qui est embourbée dans ses nombreux crédits immobiliers. Mais le problème, c'est que c'est l'irresponsabilité de cette femme qui est présentée comme étant la cause de ses problèmes et pas la faute du système. Donc voilà, Oliver Stone n'ose finalement pas traiter son sujet de façon sérieuse. Il préfère se concentrer sur le mélo et le suspense mou du drame individuel. Donc si le premier Wall Street avait été pris par certains comme une célébration du capitalisme financier, celui-là devrait être pris pour ce qu'il est. Un film à côté de la plaque qui utilise un événement important, la crise financière de 2008, et de façon plus large les magouilles financières, légales ou pas, et qui utilise ça pour servir de simple décor à un drame bourgeois. Voilà, donc ça donne presque envie de retrouver le Gordon Gekko des années 80.
En Amérique, 1% des gens détiennent 50% des richesses, 5000 milliards de dollars. Pour un tiers, c'est obtenu par le travail. Les deux autres tiers proviennent d'héritage, de l'intérêt des intérêts qu'on verse aux veuves et à leurs gosses. Et mon job, l'achat, la vente, la spéculation, c'est une foutaise. Il y a 90% de l'Amérique profonde qui ne possède rien, ou quasiment rien. Et moi, je ne crée rien. Je possède. C'est nous qui fabriquons les règlements. Les nouvelles, la guerre, la paix, la famine, les émeutes, le prix des brosses à dents. On tire à la pince du haut de forme et le public applaudit et se demande comment on a fait. Tu n'as pas la naïveté de croire que nous vivons en démocratie, j'espère. C'est le libre marché. Et tu en fais partie.
Voilà, donc Wall Street, l'argent ne dort jamais, de Oliver Stone, qui est sorti mercredi dernier et que je ne vous recommande pas particulièrement. Voilà, le premier film vaut peut-être un peu plus le coup.
Eh bien, merci, Martin, donc d'avoir fait le pont entre les deux. Alors, je ne sais pas si tu avais vu, sûrement pas d'ailleurs, le film qui s'appelle Trader, qui... Non,
j'avais pas vu ce film.
Voilà, parce que qui surfe aussi sur la crise économique de 2008 et la fameuse affaire Kerviel. Alors, c'est vrai qu'on est en pleine actualité Kerviel, forcément. C'est arrivé c'était hier, le
jugement.
Donc, c'était très près de nous. Et donc, ce cinérama aurait dû être placé sous le signe de l'économie de marché peu sauvage.
On aurait pu parler de tous les films qui parle de la bourse, faire un petit point sur les documentaires de Michael Moore, sur le récent Cleveland contre Wall Street. Mais bon, on a essayé de se limiter. Mais tout de même, tu vas nous parler d'un autre film qui, d'une certaine façon, rejoint un peu ses préoccupations économiques.
Bah oui, ça fait partie des petits documentaires sur le social. Donc là, il s'agit de Entre nos mains, de Mariana Otero. Donc, Mariana Otero, c'est une documentariste qui a fait de nombreux bons documentaires, qui en a fait pour la télé, mais qui a arrêté d'en faire pour la télé. Alors ça, elle le racontait dans l'interview que je vous avais préparée et que je n'ai pas, mais elle a arrêté tout simplement parce que Arte n'est plus très friand des sujets qu'elle choisit. Alors là, elle a choisi un sujet, mine de rien, qui n'est pas très polémique, qui ne pose pas de problème. Elle s'est intéressée à une entreprise de sous-vêtements qui était dans le Loir-et-Cher, voilà. Alors c'est une entreprise à dominante féminine, voilà, parce qu'il faut des couturières et ainsi de suite, avec un certain nombre de cadres qui là sont beaucoup plus sont masculins. Alors ce qui arrive à cette entreprise, c'est qu'elle doit mettre la clé sous la porte, grosso modo. Il n'y a plus de solution. Alors par contre, il y a un petit espoir qui pointe, c'est l'organisation en SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production. Donc Mariana Otero s'est intéressée simplement à ça. Elle a cherché une entreprise, voilà, qui était en train de se créer en SCOP, l'Europe, puisque eh bien, ce qui l'intéressait, c'était surtout eh bien, toutes les volontés qui apparaissaient, tous les doutes qui apparaissaient quand il s'agissait de donner une partie de son salaire pour être, entre guillemets, l'actionnaire eh bien, de la future entreprise. Et en devenant actionnaire et en participant à cette entreprise, eh bien, on avait son mot à dire. Donc c'est une organisation très très spéciale. Alors il y a des SCOP, effectivement, qui existent un peu partout en France. Ça représente bien une petite partie seulement hein, de l'économie, cette forme d'organisation. Il n'empêche que eh bien, ça a le mérite d'exister. Et eh bien, pour simplifier, hein, c'est vraiment une des formes qui est en opposition avec la société anonyme notamment et avec eh bien, tout ce qu'on peut voir. Notamment avec bien la cotation en bourse et les actionnaires, ainsi de suite. Là, il n'en est plus question. Ce sont vraiment les ouvriers qui décident de quoi faire. Donc, entre nos mains, on va rester cette fois-ci sur le sujet du documentaire, une fois posée bien justement la thématique. Ce qui était très intéressant avec la manière de filmer de Mariana Otero, eh bien, c'est que ça fonctionne un peu comme une fiction. On se demande si ces femmes, effectivement, eh bien, vont réussir à se monter en SCOP, puisqu'il faut eh bien, une majorité de salariés qui donnent l'argent pour que cette forme juridique naisse, la fameuse SCOP. Et donc, eh bien, du début à la fin du film, on a les mêmes doutes, les mêmes inquiétudes hein, que les protagonistes, pour peu d'ailleurs qu'on ne sache rien sur la SCOP, puisque au fur et à mesure du documentaire, on apprend de quoi il s'agit. Alors, il y a aussi la figure du patron qui réintervient au bout d'un moment quand il s'aperçoit le patron eh bien, que les ouvrières eh bien, veulent se mettre ensemble pour reprendre la boîte. Le patron se dit « Bon, écoutez, moi, je veux bien être dans votre affaire, voilà, sous une forme ou sous une autre. » Et ce patron, eh bien, on ne l'entend jamais parler. C'est un formidable hors-champ. Hors-champ est aussi eh bien, tout ce qui se passe à la maison quand ces femmes eh bien, vont eh bien, rentrer chez elles après le travail et commencent à discuter avec leur mari en disant « Écoute, est-ce que c'est bien sérieux que je donne un mois de salaire, deux mois de salaire pour faire partie de cette entreprise, quand bien même j'ai mon mot à dire ensuite. » Et eh bien ça, comme ça, la réalisatrice fait l'économie d'aller dans ses familles. Elle reste dans l'entreprise et mine de rien, comme il y a des petites confessions de ses ouvrières, eh bien on s'aperçoit que ça discute dans les familles, puisque effectivement c'est pas n'importe quelle décision. Voilà, donc c'est ça fonctionne avec une recette bien connue de la fiction, et c'est ce qui, à mon sens, est intéressant, en plus de vous apprendre eh bien, ce que c'est que la SCOP, donc Société Coopérative
Ouvrière
de production. Alors je crois qu'il y a maintenant, ils ont remplacé production par autre chose, et il en est question dans le film, mais j'ai pas retenu, et même la réalisatrice, au moment de l'interview, ne savait plus.
Mais il y avait un autre film qui abordait ce sujet, L'Élipe, qui est passé assez souvent, que ce soit dans les festivals ou au Diagonale,
oui, oui,
qui retraçait un peu justement l'aventure L'Élipe, quand les ouvriers, suite à une grève, reconduite, ont pris finalement le pouvoir dans leur entreprise et se sont déclarés en SCOP, qui était un peu un exemple pour toutes ces initiatives. Voilà, donc c'est un film, L'Élipe, je crois, je sais plus le titre exactement, mais vous pouvez trouver les références.
Mais il est passé pas mal de fois, mais chaque fois je l'ai raté, effectivement. Mmh. Mais je crois en plus que ça concernait le Gard, hein. C'était dans la région ou l'Ardèche ou voilà.
Je vais pas prendre de risque,
mais
voilà,
j'aurais pas dû en prendre.
Vu qu'il est passé très très souvent, qu'il y a eu d'excellentes critiques, voilà, ça vous permettra aussi d'approfondir après la vision du film de Mariana Otero,
qui est donc projeté au Diagonale. Ça dure 1h30, c'est assez serré, voilà. Vous pouvez vous mettre confortablement dans le fauteuil. Alors, il n'y a pas d'immense révélation, hein, mais c'est simplement une histoire qu'on vous raconte, et pas n'importe laquelle, puisque ben, c'est un peu leur pain quotidien à toutes ces femmes. Voilà, entre nos mains, cinéma Diagonale.
Voilà, et on a fait le tour à peu près du sommaire d'aujourd'hui. On va se quitter un petit peu avant la demi-heure réglementaire. Et pour terminer, bah, une touche un petit peu mélancolique, un petit peu triste, puisque outre le décès de Tony Curtis, nous avons également appris que le grand réalisateur Arthur Penn s'est éteint mardi dernier à l'âge de 88 ans. Moi, je l'ai appris après avoir fait l'émission de mercredi dernier, donc on vous en avait pas parlé. Il nous avait offert au cours de sa longue carrière plusieurs chefs-d'œuvre comme La Poursuite impitoyable avec Marlon Brando, Bonnie and Clyde ou encore Little Big Man, dont vous entendrez un petit extrait à la fin du générique de Cinérama.
Voilà, bah on se retrouve...
Ah, tu n'as pas préparé les événements ?
Les événements, non, j'ai pas préparé.
Je me suis concentré
sur les événements financiers cette semaine. D'accord. J'ai appris ce qu'étaient les hedge funds. Maintenant, si tu veux que je te fasse un petit topo sur l'effet de levier, tout ça.
Mais... Absolument pas. Mais non, mais je... Alors, voilà, oui, je ne suis pas dans mon état normal aujourd'hui, donc j'ai la mémoire qui flanche. Mais demain, je crois qu'il y a l'avant-première du documentaire sur Ciné. Donc oui, au cinéma Diagonal.
Mourir plutôt crevé.
Voilà, et comme tu es plutôt de la maison, je pensais que tu pouvais un peu en parler. Mais voilà, en présence du réalisateur. Alors théoriquement, il y a une projection presse qui est prévue demain avec une interview du réalisateur. Mais je ne pense pas avoir le temps de ramener quoi que ce soit. Enfin, j'essaierai en tout cas de trouver le son et de vous le rapporter pour le prochain Cinérama de la semaine prochaine. Ouais. Et il y a une autre avant-première lundi, mais consultez donc le site internet du Diagonal.
Voilà, pour les événements, on essaiera de faire mieux la prochaine fois, comme super. On dit dans le monde du cyclisme. Et voilà, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Profitez bien de votre semaine cinéma. N'allez pas voir n'importe quoi, bien sûr.
Et surtout pas Wall Street, donc ça
oui,
c'est
de
clair.
Préférence, vous pouvez éviter Wall Street.
Intéressez-vous plus volontiers au scope. Donc,
voilà. Voilà.
Bah merci Martin.
Merci Vincent.
D'avoir fait toute cette émission quasiment d'un bloc. Et on espère se retrouver la semaine prochaine sur les ondes de Divergence. Cette émission est rediffusée normalement, si tout va bien, à 18h le mercredi. Elle a lieu en direct de 13h30 à 14h. Le générique de fin, tu en as parlé, c'est un
court
petit
extrait de Little Big Man d'Arthur Penn.
Mais c'est à la toute fin.
Des progrès, Jacques, mais on dirait que tu n'arrives pas à te débarrasser d'un relief d'honnêteté. Celui qui t'a perverti, c'est ce diable d'Indien à la vieille cabane.
Peau de vieille hutte.
C'est lui qui t'a donné la vision d'un ordre moral qui règnerait sur l'univers, alors qu'il n'en existe aucun. Les étoiles scintillent dans le vide, mon garçon, et les créatures à deux pattes mûrissent sous leur lumière des rêves et des projets absurdes. Tout cela en vain. Tout cela en vain, Jacques. Les créatures à deux pattes sont prêtes à croire tout ce qu'on dit. Et plus c'est invraisemblable, plus elles sont prêtes à le croire. Les baleines parlent latin au fond du Pacifique. Les chevaux sauvages d'Arabie ont des ailes frangées d'or. Les pygmées s'accouplent avec les éléphants dans la forêt africaine. J'ai déjà fait gober aux gens ces affirmations ridicules.
Cinérama sur Divergence FM.
Il se peut qu'on soit tous des idiots et que ça n'ait pas d'importance.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers,
Les pompiers, c'est le 18. Alors, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.